Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à sa tradition depuis longtemps établie et qui vous rappellera ou vous apprendra par conséquent que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent quelque part depuis la fin du 19e siècle. Oui, je cherchais mes mots, 1895, on était encore au 19e siècle. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons évoquer la carrière d'un acteur américain né quelque part dans les Antilles britanniques le 20 février 1924 et nommé Sidney Poitier puisque son nom était vaguement d'origine française et donc il est né dans les Antilles britanniques où l'on parlait donc anglais et en fait il était citoyen américain. Alors on ne peut pas dire que Sidney Poitier est né comme l'on dit, ou plutôt comme l'on disait, avec une cuillère en argent dans la bouche, puisqu'il était le fils de Reginald James Poitier, un planteur de tomates, et d'Evelyn Houghton, sa femme. Donc on suppose, puisqu'il n'y a rien sur ma petite fiche, qu'elle ne travaillait pas. En tout cas, elle élevait son ou ses enfants. Et très rapidement, Sidney Poitier comprend que ce n'est pas aux Bahamas qu'il va pouvoir trouver un vrai travail, puisque comme il le dira plus tard, je vivais dans un pays où je ne pouvais pas avoir de travail, sauf ceux mis à part pour ma couleur ou ma caste. Voilà un homme qui apparemment avait très rapidement une conscience aiguë de sa place dans la société et à l'âge de 16 ans, donc bien jeune, il s'installe à New York, exerce différents métiers et comme il a déjà le virus du jeu, eh bien il s'inscrit à l'American Negro Theater fondé à Harlem qui, comme son nom l'indique, eh bien était un théâtre où l'on montait des spectacles avec des personnes noires et il est rapidement remarqué, pardonnez-moi, par un directeur de casting, ce qui fait que dès 1949, donc il a 22 ans, si je ne m'abuse, eh bien, il se voit offrir un rôle, un premier rôle au cinéma, un premier rôle important en fait, dans un film de Joseph Mankiewicz qui s'intitule en français La porte s'ouvre, mais en anglais exactement l'inverse, c'est-à-dire No Way Out, c'est-à-dire pas de sortie. On va savoir pourquoi à l'époque les distributeurs français ont choisi de mettre ce titre-là. On va écouter un très très court extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée d'Alfred Newman, un des grands du cinéma hollywoodien. Alors c'est un très court extrait mais le film est quand même important. C'est le premier film de Sidney Poitier et puis je vous en dirai un petit mot après. On écoute un extrait de cette bande originale. La porte s'ouvre donc dans 24 notes secondes. Style typique d'Alfred Newman, très violent, très lyrique, pour un extrait de la bande originale de La Porte s'ouvre, un film de Joseph Mankiewicz qui mettait en vedette, et j'ai oublié de préciser, en sus de Sidney Poitier, notre héros du jour, Richard Widmark et Linda Darnell. Alors Richard Widmark qui, hélas pour lui, incarnait un de ses nombreux personnages antipathiques. Il était évidemment raciste, puisque Sidney Poitier, dans ce film, incarnait un docteur qui se trouvait à avoir à soigner des gens avec un contexte raciste très 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 difficile. Et alors, on peut quand même remarquer que c'était la première fois, donc en 1950, qu'on voyait un docteur noir à l'écran, ce qui quand même en dit long sur la place des noirs dans le cinéma américain, tout au moins jusqu'aux années 50, et grâce notamment à des gens comme Sidney Poitier, puisque dans les années 30-40, le plus souvent, ils étaient, on les voit souvent dans les trains où ils servent les gens, on les voit en femmes de ménage, on les voit en portier, bref, on ne voit que des noirs dans des positions subalternes et si possible relativement idiots pour justifier du fait qu'il n'est que des positions subalternes. Dans La Porte s'ouvre, il n'en était rien et Sidney Poitier, pour un premier rôle au cinéma, eh bien, faisait preuve d'un grand charisme. Notons aussi que c'est la première fois, là aussi c'est l'anecdote en dit long, que les parents de Sidney Poitier allaient au cinéma de leur vie pour voir leur fils dans son premier film. Ma foi, il y a des premières fois dont on doit se souvenir indéfiniment. En tout cas, pour Sidney Poitier, ce fut une première occasion d'être au cinéma et donc de commencer à conforter, je dirais, sa stature. Et on le reverra en 1955 dans un film de Richard Brooks. Cette fois, on n'a que des grands du cinéma américain pour accompagner les premiers pas de Sidney Poitier à l'écran. Un film de Richard Brooks où on voyait Glenn Ford en vedette, Sidney Poitier n'était pas en vedette, qui était un jeune professeur dans un centre de formation professionnelle et qui avait beaucoup de mal à s'imposer auprès de, je dirais, de ses élèves, qu'ils soient noirs ou blancs. Alors, ils étaient apparemment ensemble en classe, mais séparés, je dirais, socialement, même s'ils étaient unis par la même haine contre Glenn Ford. Un sujet qui, à l'époque, en 1955, était très controversé, si controversé que Richard Brooks fut obligé de tourner en studio puisqu'il ne trouva aucune ville qui voulut accueillir un tournage aussi complexe et aussi audacieux. Et ce qui fit une partie du succès du film, c'est pas seulement, je dirais, la qualité de l'interprétation de Glenn Ford, de Sidney Poitier, de quelques autres qui l'accompagnaient, mais c'est aussi une chanson qui introduisit en 1955 un genre nouveau pour l'époque. Cette chanson, je suis sûr que vous allez la reconnaître dans 24 notes secondes.
Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 12 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, home. We'll have some fun when the bad strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Eh bien voilà, vous aviez l'ambiance sonore du film, en même temps un extrait de la bande originale de Graines de Violence, donc un film, je ne sais même pas si je l'avais dit, un film de Richard Brooks, Blackboard Jungle, en anglais un titre plus évocateur, puisque le Blackboard, comme vous le savez, c'est le tableau noir, donc la jungle du tableau noir, ça avait une autre allure que Graines de Violence, et en tout cas cette chanson, eh bien, elle était chantée par Bill Haley and His Comets, c'est Rock Around the Clock, vous l'avez sans doute reconnu, eh bien, c'était une des premières chansons d'un genre musical qui allait déferler et pratiquement enlever toute la musique précédente sur son passage. Le rock'n'roll, bien sûr, ça paraît bizarre maintenant de parler du rock'n'roll comme on parlerait de la musique wagnérienne de la fin du 19e, mais en tout cas, ou du néo-romantisme, je ne sais pas, mais en tout cas, eh bien, en 1955, c'était une révolution musicale, mais c'était aussi une révolution sociale, et c'est bien ce que traduisait le film, le fait que la musique et la violence, en tout cas supposée qu'elle portait, eh bien, elle s'appuyait sur la violence de l'époque et des rapports sociaux tels qu'incarnés dans ce film par Glenn Ford, donc un professeur blanc, et par ses élèves, pour part blanc, mais aussi pour part noire, et pour ce qui était de la part noire, menée par Sidney Poitier, donc l'un des interprètes remarqués du film. Et Sidney Poitier, eh bien, trouva là, grâce à son gros succès du film, eh bien, l'occasion ensuite de multiplier les rôles. En 1957, on le vit notamment dans L'homme qui tua la peur de Martin Reed, dans L'esclave livre de Raoul Walsh. En 58, on le vit enchaîné, sauf erreur de ma part, avec Tony Curtis dans La chaîne de Stanley Kramer, deux prisonniers donc qui s'évadent. Et évidemment, un noir, un blanc. Évidemment, le blanc est raciste. Et évidemment, à la fin, ils deviennent amis. C'était la générosité de Stanley Kramer, un réalisateur duquel on pourra reparler. En 59, on le vit dans l'adaptation, d'une certaine manière, de Carmen, réalisée par Otto Preminger sous le titre de Porgy and Bess. Et il était, là encore, tout à fait charismatique. Bref, eh bien, Sidney Poitier progressait, je dirais, dans le vedettariat, mais aussi socialement, puisque du coup, il interprétait des rôles de plus en plus étoffés de personnes noires, certes, mais qui, le certes était pour l'époque, hein, bien sûr, mais qui avaient une vie tout à fait normale de gens compétents, faisant des activités sociales et non pas, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, uniquement. Je n'ai rien contre, évidemment, mais uniquement des femmes de ménage ou des contrôleurs de train. Et en 1963, eh bien, on le vit en vedette d'un très joli petit film qui n'a pas laissé un grand souvenir, sauf pour une chose, un film de Ralph Nelson, intitulé en anglais « Lilies of the Field », c'est une allusion à la Bible que je me garderai de développer, en français « Le Lys des champs », où l'on voyait Sidney Poitier dans le rôle d'un homme à tout faire itinérant qui se retrouve embringué dans un chantier mené par des nonnes allemandes qui lui demandent de réparer son toit. Alors l'argument paraît à la fois un peu abracadabrant et bien mince, mais en tout cas il est joliment mené, et même si tous les autres acteurs et actrices n'ont pas laissé de mémoire dans l'histoire du cinéma, eh bien la partition est bien menée, et surtout, eh bien cette année-là, le film reconnu un très gros succès, alors même que c'était un petit film qui avait eu beaucoup de mal à se monter, à trouver de l'argent pour son financement, même s'il y avait Sidney Poitier en vedette, eh bien en 1963, le Lys des champs obtint un très très gros succès, et il permit à Sidney Poitier d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur. Et figurez-vous qu'en 1963, eh bien, c'était la première fois qu'un acteur noir obtenait l'Oscar du meilleur acteur. Bref, on en pense ce qu'on veut, mais c'était quand même une avancée considérable pour les années 60, marquée par l'essor de la Ligue pour les droits civiques des Noirs, par une agitation sociale importante qui tentait de renverser l'ordre raciste blanc établi. Et ma foi, eh bien, on a les symboles qu'on peut, et Sidney Poitier recevant son Oscar en 1963, pardonnez-moi de l'écrire ou de le dire plutôt, ça avait de la gueule. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film, avec d'autant plus de plaisir qu'elle est signée de notre cher Jerry Goldsmith. Ça s'appelle donc Le Lys des champs. Le Lys des champs, c'est mieux. Jerry Goldsmith dans 24 notes, seconde. Thank you. Voilà un extrait très Americana de la bande originale du Lys des Champs, Ladies of the Field, une musique de Jerry Goldsmith, notre chéri, comme le savent les fidèles de 24 notes secondes. Notre chéri, non mais n'importe quoi, notre dieu, tout simplement, dans 24 notes secondes. Et donc, pour illustrer bien un grand moment de l'histoire en fait, américaine, le premier Oscar obtenu par un acteur noir du meilleur acteur. Il y avait eu d'autres Oscars avant, notamment, on se souvient de celui de Hattie McDaniel, remporté pour son rôle dans Autant en emporte le vent en 1939, mais elle n'avait eu que l'Oscar, si je puis dire, du meilleur second rôle, et non pas de la meilleure actrice. Bref, un grand moment et une consécration pour Sidney Poitier, qui depuis quelques années, eh bien, traçait son chemin, devenait une valeur sûre du cinéma, tout simplement, un acteur qu'on allait voir, parce que c'était lui qui jouait. Et du coup, eh bien, dans les années suivantes, il s'illustra dans des genres très différents. On le vit dans Les Dracars en 1964, un film de Jack Cardiff qui se voulait une sorte de suite plus ou moins intéressante au fameux Viking de Richard Fleischer, dont là encore les fidèles de 24 notes secondes savent combien je l'apprécie. On le vit en 1965, alors c'est vraiment pour donner quelques titres, dans Un coin de ciel bleu, Patch of Blue, là encore une musique de notre cher Jerry Goldsmith et une histoire presque tendancieuse, non pas d'amour, mais en tout cas d'amitié forte entre une jeune femme blanche et aveugle et un jeune homme noir, et incarné bien évidemment par Sidney Poitier. En 1967, on va venir, il tourne deux films très importants. D'abord un film de Norman Jewison intitulé Dans la chaleur de la nuit, In the Heat of the Night, dans lequel il se trouve opposé à Rod Steiger, qui fait un peu le même rôle que jouait celui que jouait Richard Widmark dans La porte s'ouvre évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que Sidney Poitier incarne un policier qui débarque dans une ville, un policier noir bien sûr, qui débarque dans une ville du Mississippi. Autant dire quelque part dans un coin où on n'aime pas trop les Noirs, et pour enquêter sur un meurtre. Et il se trouve d'abord opposé à Rod Steiger, qui interprète le rôle du shérif local. Et évidemment, à la fin, eh bien, les deux hommes ont une estime mutuelle. Le film eut un très très gros succès. Il obtint 5 Oscars, alors pas pour Sidney Poitier, mais enfin, pour d'autres, un tel succès que l'année suivante, on vit à nouveau Sidney Poitier dans le même rôle de Monsieur Tips pour un film intitulé Appelez-moi Mr. Tips de Gordon Douglas. Et cette même année 1967, décidément, eh bien, Sidney Poitier retrouva Stanley Kramer et se retrouva aux côtés d'actrices alors qu'elle a complètement disparu de la circulation, Katharine Houghton, un couple blanc-noir, là encore en 1967. C'est pas un hasard que ce soit en 1967. Eh bien, ça provoquait un peu moins de scandale. Disons qu'on arrivait simplement à tourner le film. Un couple, donc, où la jeune fille est blanche et le jeune homme noir, et qui allait rencontrer eh bien, les parents de la jeune fille, qui était interprété par un couple de monstres sacrés venus du cinéma de l'ancien temps, si on peut dire. En l'espèce, Spencer Tracy et Catherine Hepburn, qui étaient, en tout cas pour le premier cité, quasiment à la fin de sa carrière. Le film était à nouveau, je crois l'avoir déjà dit, tourné par Stanley Kramer, qui fut dans les années 50-60 un homme généreux, un producteur, un scénariste, un réalisateur généreux qui était convaincu de la possibilité de faire passer par le cinéma des idées progressistes, et c'est évidemment ce qu'il essaya de faire. Et on va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Alors j'avoue que, honte à moi, je n'en retrouve pas le compositeur, mais ça viendra après avoir écouté cet extrait. Et en plus, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous dire maintenant, c'est le titre du film. Ça peut servir aussi. Le film, il s'appelle « Devine qui vient dîner ». Justement, « Guess who's coming to dinner » dans 24 notes, secondes. Thank you. Voilà un extrait de la bande originale de Devine qui vient dîner, une musique de Frank Devol. Voilà le nom du compositeur que j'avais oublié, un film de Stanley Kramer tourné en 1967. Pour le reste, eh bien, la carrière de Sidney Moitier connaîtra une lente décrue, comme c'est toujours le cas avec des gens qui sont arrivés au sommet, avec un Oscar. Il tourna quelques films, il en réalisa quelques-uns, mais son dernier film date de 1997, alors que l'homme nous a quittés en janvier 2022 pour être enterré dans son Bahamas natal. On va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale des Experts, un film de Phil Alden Robinson, une musique de James Horner, un film tourné en 1992 avec Robert Redford et Dan Aykroyd dans les autres rôles. La musique, je viens de le dire, elle est signée de James Horner. On va juste saluer Sidney. Goodbye Sidney, dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.